Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet.
Chapitre 9. Marcel reparut le lendemain à 3 heures, la face verte, les yeux rouges, une bigne au front, le pantalon déchiré, empestant l'eau-de-vie immonde. Il avait été, selon sa coutume annuelle, à 6 lieues de là, près d'Iqueville, faire le réveillon chez un ami, et bégayant plus que jamais, pleurant, voulant se battre, il implorait sa grâce comme s'il eût commis un crime. Ses maîtres l'octroyèrent, un calme singulier, les portait à l'indulgence. La neige avait fondu tout à coup, et ils se promenaient dans leur jardin, humant l'air tiède, heureux de vivre. Était-ce le hasard seulement qui les avait détournés de la mort? Bouvard se sentait attendri. Pécuchet se rappela sa première communion, et plein de reconnaissance pour la force, la cause dont il dépendait, l'idée leur vint de faire des lectures pieuses. L'évangile dilata leur âme, les éblouit comme un soleil. Ils apercevaient Jésus debout sur la montagne, un bras levé, la foule en dessous l'écoutant, ou bien au bord du lac parmi les apôtres qui tirent des filets, puis sur la naisse dans la clameur des Alléluia, la chevelure éventée par les palmes frémissantes, enfin au haut de la croix inclinant sa tête, d'où tombe éternellement une rosée sur le monde. Ce qui les gagna, ce qui les délectait, c'est la tendresse pour les humbles, la défense des pauvres, l'exaltation des opprimés. Et dans ce livre où le ciel se déploie, rien de théologal au milieu de tant de préceptes, pas un dogme, nulle exigence que la pureté du cœur. Quant au miracle, l'oraison n'en fut pas surprise, dès l'enfance il les connaissait. La hauteur de saint Jean ravit Pécuchet et le disposa à mieux comprendre l'imitation. Ici, plus de paraboles, de fleurs, d'oiseaux, mais des plaintes, un resserrement de l'âme sur elle-même. Bouvard s'attrista en feuilletant ces pages qui semblent écrites par un temps de brume au fond d'un cloître, entre un clocher et un tombeau. Notre vie mortelle y apparaît si lamentable qu'il faut l'oubliant se retourner vers Dieu. Et les deux bons hommes, après toute leur déception, éprouvaient le besoin d'être simples, d'aimer quelque chose, de se reposer l'esprit. Ils abordèrent l'Ecclésiaste, Isaïe, Jérémie. Mais la Bible les effrayait avec ses prophètes à voix de lion, le fracas du tonnerre dans les nues, tous les sanglots de la géhenne et son Dieu dispersant les empires comme le vent fait des nuages. Ils lisaient cela le dimanche, à l'heure des vêpres, pendant que la cloche tintait. Un jour, ils se rendirent à la messe, puis y retournèrent. C'était une distraction au bout de la semaine. Le comte et la comtesse de Faverges les saluèrent de loin, ce qui fut remarqué. Le juge de paix leur dit en clignant de l'œil, « Parfait, je vous approuve. » Toutes les bourgeoises maintenant leur envoyaient le pain béni. L'abbé Geoffroy leur fit une visite, ils la rendirent, on se fréquenta, et le prêtre ne parlait pas de religion. Ils furent étonnés de cette réserve, si bien que Pécuchet, d'un air indifférent, lui demanda comment s'y prendre pour obtenir la foi. Pratiquer d'abord. Ils se mirent à pratiquer, l'un avec espoir, l'autre par défi, Bouvard étant convaincu qu'il ne serait jamais un dévot. Un mois durant, il suivit régulièrement tous les offices, mais à l'encontre de Pécuchet ne voulut pas s'astreindre au maigre. Était-ce une mesure d'hygiène? On sait ce que vaut l'hygiène. Une affaire de convenance abat les convenances. Une marque de soumission envers l'Église, il s'en fichait également. Bref, déclarer cette règle absurde, pharisaïque et contraire à l'esprit de l'Évangile. Le vendredi saint des autres années, ils mangeaient ce que Germaine leur servait. Mais Bouvard, cette fois, s'était commandé à bifteck. Il s'assit, coupa la viande, et Marcel le regardait scandalisé, tandis que Pécuchet dépiautait gravement sa tranche de morue. Bouvard restait la fourchette d'une main, le couteau de l'autre. Enfin, se décidant, il monta une bouchée à ses lèvres. Tout à coup, ses mains tremblèrent. Sa grosse mine pâlit, sa tête se renversait. « Tu te trouves mal ?»« Non, mais et il fit un aveu. Par suite de son éducation, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait manger du gras ce jour-là, dans la crainte de mourir. Pécuchet, sans abuser de sa victoire, en profita pour vivre à sa guise. Un soir, il rentra la figure empreinte d'une joie sérieuse et, lâchant le mot, dit qu'il venait de se confesser. Alors, ils discutèrent l'importance de la confession. Bouvard admettait celle des premiers chrétiens qui se faisaient en public. La moderne est trop facile. Cependant, il ne niait pas que cette enquête sur nous-mêmes ne fût un élément de progrès, un levain de moralité. Pécuchet, désireux de la perfection, chercha ses vices. Les bouffées d'orgueil, depuis longtemps, étaient parties. Son goût du travail l'exemptait de la paresse. Quant à la gourmandise, personne de plus sobre. Quelquefois, des colères l'emportaient. Il se jura de n'en plus avoir. Ensuite, il faudrait acquérir les vertus. Premièrement, l'humilité, c'est-à-dire se croire incapable de tout mérite, indigne de la moindre récompense, immoler son esprit et se mettre tellement bas que l'on vous foule aux pieds comme la boue des chemins. Il était loin encore de ses dispositions. Une autre vertu lui manquait, la chasteté, car intérieurement il regrettait Mélie, et le pastel de la dame en robe Louis XV le gênait avec son décolletage. Il l'enferma dans une armoire, redoubla de pudeur, jusqu'à craindre de porter ses regards sur lui-même, et couchait avec un garçon. Tant de soins autour de la luxure la développèrent. Le matin principalement, il avait à subir de grands combats, comme en eurent saint Paul, saint Benoît et saint Jérôme, dans un âge fort avancé. De suite, il recourait à des pénitences furieuses. La douleur est une expiation, un remède et un moyen, un hommage à Jésus-Christ. Tout amour veut des sacrifices, et quel plus pénible que celui de notre corps. Afin de se mortifier, Pécuchet supprima le petit verre après les repas, se réduisit à 4 pils dans la journée, par les froids extrêmes, ne mettait plus de casquette. Un jour, Bouvard, qui rattachait la vigne, posa une échelle contre le mur de la terrasse près de la maison, et, sans le vouloir, se trouva plongé dans la chambre de Pécuchet. Son ami, nu jusqu'au ventre, avec le martinet aux habits, se frappait les épaules doucement. Puis s'animant, retira sa culotte, cingla ses fesses et tomba sur une chaise hors d'haleine. Bouvard fut troublé comme à la découverte d'un mystère qu'on ne doit pas surprendre. Depuis quelque temps, il remarquait plus de netteté sur les carreaux, moins de trous aux serviettes, une nourriture meilleure, changement qui était dû à l'intervention de Reine, la servante de M. le curé. Mêlant les choses de l'église à celles de sa cuisine, forte comme un valet de charrue et dévouée, bien qu'irrespectueuse, elle s'introduisait dans les ménages, donnait des conseils, y devenait maîtresse. Pécuchet se fiait absolument à son expérience. Une fois, elle lui amena un individu replet, ayant de petits yeux à la chinoise, un nez en bec de vautour. C'était M. Gutmann, négociant en articles de piété. Il en déballa quelques-uns enfermés dans des boîtes sous le hangar. Croix, médailles et chapelets de toutes les dimensions, candélabres pour oratoire, autels portatifs bouquets de clinquants, et des sacré-cœurs en carton bleu, des Saint-Joseph à barbe rouge, des calvaires de porcelaine. Pécuchet les convoita. Le prix seul l'arrêtait. Gutmann ne demandait pas d'argent, il préférait les échanges, et monté dans le muséum, il offrit contre des vieux fers et tous les plombs un stock de ses marchandises. Elle parut hideuse à Bouvard, mais l'œil de Pécuchet, les instances de Reine et le bagout du brocanteur finirent par le convaincre. Quand il le vit si coulant, Gutmann voulut en outre la hallebarde. Bouvard, las d'en avoir démontré la manœuvre, l'abandonna. L'estimation totale étant faite, ces messieurs devaient encore 100 francs. On s'arrangea, moyennant 4 billets à 3 mois d'échéance, et ils s'applaudirent du bon marché. Leurs acquisitions furent distribuées dans tous les appartements. Une crèche remplie de foin et une cathédrale de Liège décorèrent le muséum. Il y eut sur la cheminée de Pécuchet un Saint Jean-Baptiste en cire, le long du corridor les portraits des gloires épiscopales, et au bas de l'escalier, sous une lampe à chaînette, une Sainte Vierge en manteau d'azur et couronnée d'étoiles. Marcel nettoyait ses splendeurs, n'imaginant au paradis rien de plus beau. Quel dommage que le Saint-Pierre fût brisé, et comme il aurait fait bien dans le vestibule. Pécuchet s'arrêtait parfois devant l'ancienne fosse au compost où l'on reconnaissait la tiare, une sandale, un bout d'oreille. Lâchait des soupirs, puis continuait à jardiner, car maintenant il joignait les travaux manuels aux exercices religieux, et bêchait la terre vêtue de la robe de moine en se comparant à Saint Bruno. Ce déguisement pouvait être un sacrilège, il y renonça. Mais il prenait le genre ecclésiastique, sans doute par la fréquentation du curé. Il en avait le sourire, la voix, et d'un air frileux glissait comme lui dans ses manches, ses deux mains jusqu'aux poignets. Un jour vint où le chant du coq l'importuna, les roses l'écœuraient, il ne sortait plus ou jetait sur la campagne des regards farouches. Bouvard se laissa conduire au moine Marie. Les enfants qui chantaient des hymnes, les gerbes de lilas, les festons de verdure, lui avaient donné comme le sentiment d'une jeunesse impérissable. Dieu se manifestait à son cœur par la forme des nids, la clarté des sources, la bienfaisance du soleil, et la dévotion de son ami lui semblait extravagante, fastidieuse. « Pourquoi gémis-tu pendant le repas ?»« Nous devons manger en gémissant, » répondit Pécuchet, « car l'homme, par cette voie, a perdu son innocence. » Phrase qu'il avait lue dans le manuel du séminariste, de volume in 12, emprunté à M. Geoffroy. Et il buvait de l'eau de la salette, se livrait porte-close à des oraisons jaculatoires, espérait entrer dans la confrérie de Saint-François. Pour obtenir le don de persévérance, il résolut de faire un pèlerinage à la Sainte Vierge. Le choix des localités l'embarrassa. Serait-ce à Notre-Dame de Fourvière, de Chartres, d'Embrun, de Marseille ou d'Auray? Celle de la délivrante plus proche convenait aussi bien. Tu m'accompagneras? J'aurai l'air d'un cornichon, dit Bouvard. Après tout, il pouvait en revenir croyant, ne refusait pas de l'être et céda par complaisance. Les pèlerinages doivent s'accomplir à pied, mais 43 kilomètres seraient durs. Et les gondoles n'étant pas congruentes à la méditation, ils louèrent un vieux cabriolet qui, après 12 heures de route, les déposa devant l'auberge. Ils eurent une pièce à deux lits avec deux commodes supportant deux pots à eau dans des petites cuvettes ovales, et l'hôtelier leur apprit que c'était la chambre des Capucins sous la Terreur. On y avait caché la dame de la délivrante avec tant de précautions que les bons pères y disaient la messe clandestinement. Cela fit plaisir à Pécuchet et il lut tout haut une notice sur la chapelle prise en bas dans la cuisine. Elle a été fondée au commencement du IIe siècle par saint Régnebert, premier évêque de Lisieux, ou par saint Ragnebert, qui vivait au VIIe, ou par Robert le Magnifique au milieu du XIe. Les Danois, les Normands et surtout les protestants l'ont incendiée et ravagée à différentes époques. Vers 1112, la statue primitive fut découverte par un mouton qui, en frappant du pied dans un herbage, indiqua l'endroit où elle était, et sur cette place le comte Baudouin érigea un sanctuaire. Ces miracles sont innombrables. Un marchand de Bayeux, captif chez les Sarrasins, l'invoqua, ses fers tombent et il s'échappe. Un avare découvre dans son grenier un troupeau de rats, l'appelle à son secours, et les rats s'éloignent. Le contact médaille ayant effleuré son effigie fit se repentir au lit de mort un vieux matérialiste de Versailles. Elle rendit la parole au sieur Adeline qui l'avait perdu pour avoir blasphémé. Et par sa protection, monsieur et madame de Becqueville eurent assez de force pour vivre chastement, en état de mariage. On cite parmi ceux qu'elle a guéris d'infections irrémédiables, mademoiselle de Palfrène, Anne Lirieux, Marie Duchemin, François Dufay et Madame de Jumillac, née d'Osville. Des personnages considérables l'ont visité, Louis XI, Louis XIII, deux filles de Gaston d'Orléans, le cardinal Weissmann, Saint Miri, patriarche d'Antioche, Monseigneur Vérol, vicaire apostolique de la Manchourie, et l'archevêque de Quélan vint lui rendre grâce pour la conversion du prince de Talleyrand. Elle pourra, dit Pécuchet, te convertir aussi. Bouvard, déjà couché, eut une sorte de grognement et s'endormit tout à fait. Le lendemain, à 6 heures, ils entraient dans la chapelle. On en construisait une autre, des toiles et des planches embarrassaient la nef, et le monument de style rococo déplut à Bouvard, surtout l'autel de marbre rouge avec ses pilastres corinthiens. La statue miraculeuse dans une niche à gauche du chœur est enveloppée d'une robe à paillettes. Le bedeau survint, ayant pour chacun d'eux un cierge, il le planta sur une manière de herse dominant la balustrade, demanda 3 francs, fit une révérence et disparut. Ensuite, ils regardèrent les ex-photos. Des inscriptions sur plaques témoignent de la reconnaissance des fidèles. On admire 2 épées en sautoir offertes par un ancien élève de l'école polytechnique, des bouquets de mariés, des médailles militaires, des cœurs d'argent, et dans l'angle, au niveau du sol, une forêt de béquilles. De la sacristie déboucha un prêtre portant le Saint-Ciboire. Quand il fut resté quelques minutes au bas de l'autel, il monta les 3 marches, dit l'Oremus, l'Introït et le Kyrie, que l'enfant de cœur à genoux récita tout d'une haleine. Les assistants étaient rares, 12 ou 15 vieilles femmes. On entendait le froissement de leur chapelet et le bruit d'un marteau cognant des pierres. Pécuchet, incliné sur son prie-Dieu, répondait aux amens. Pendant l'élévation, il supplia Notre-Dame de lui envoyer une foi constante et indestructible. Bouvard, dans un fauteuil à ses côtés, lui prit son eucologe et s'arrêta aux litanies de la Vierge. Très pure, très chaste, vénérable, aimable, puissante, clémente, tour d'ivoire, maison d'or, porte du matin. Ces mots d'adoration, ces hyperboles l'emportèrent vers celle qui est célébrée par tant d'hommages. Il la rêva comme on la figure dans les tableaux d'église sur un amoncellement de nuages, des chérubins à ses pieds, l'enfant Dieu à sa poitrine, mère des tendresses que réclament toutes les afflictions de la terre, idéal de la femme transportée dans le ciel, car sorti de ses entrailles, l'homme exalte son amour et n'aspire qu'à reposer sur son cœur. La messe étant finie, ils longèrent les boutiques qui s'adossent contre le mur du côté de la place. On y voit des images, des bénitiers, des urnes à filets d'or, des Jésus-Christ en noix de coco, des chapelets d'ivoire, et le soleil frappant les verres des cadres éblouissait les yeux, faisait ressortir la brutalité des peintures, la hideur des dessins. Bouvard, qui chez lui trouvait ces choses abominables, fut indulgent pour elle. Il acheta une petite vierge en pâte bleue. Pécuchet, comme souvenir, se contenta d'un rosaire. Les marchands criaient « Allons, allons, pour 5 francs, pour 3 francs, pour 60 centimes, pour 2 sols, ne refusez pas Notre-Dame !» Les 2 pèlerins flânaient, sans rien choisir. Des remarques désobligeantes s'élevèrent. « Qu'est-ce qu'ils veulent, ces oiseaux-là? Ils sont peut-être des Turcs, des protestants plutôt. » Une grande fille tira Pécuchet par la redingote. Un vieux en lunettes lui posa la main sur l'épaule. Tous braillaient à la fois, puis quittant leur baraque, ils vinrent les entourer, redoublés de sollicitations et d'injures. Bouvard n'y tint plus. « Laissez-nous tranquilles, nom de Dieu !» La tourbe s'écarta. Mais une grosse femme les suivit quelque temps sur la place et cria qu'ils s'en repentiraient. En rentrant à l'auberge, ils trouvèrent dans le café Gutmann. Son négoce l'appelait en ses parages, et il causait avec un individu, examinant des bordereaux sur la table devant eux. Cet individu avait une casquette de cuir, un pantalon très large, le teint rouge et la taille fine malgré ses cheveux blancs, l'air à la fois d'un officier en retraite et d'un vieux cabotin. De temps à autre, il lâchait un giron, puis sur un mot de Gutmann dit plus bas, se calmait de suite et passait à un autre papier. Bouvard, qui l'observait, au bout d'un quart d'heure, s'approcha de lui. « Barberou, je crois. »« Bouvard !» s'écria l'homme à la casquette. Et ils s'embrassèrent. Barberou, depuis 20 ans, avait enduré toutes sortes de fortunes. Gérant d'un journal, commis d'assurance, directeur d'un parc aux huîtres. Je vous conterai cela. Enfin revenu à son premier métier, il voyageait pour une maison de Bordeaux, et Gutmann, qui faisait le diocèse, lui placer des vins chez les ecclésiastiques. Mais permettez, dans 1 minute, je suis à vous. Il avait repris ses comptes quand, bondissant sur la banquette, comment 2000 ? Sans doute. Ah, elle est forte, celle-là. Vous dites ?
Je dis que j'ai vu un Rambert moi-même, répliqua Barberou furieux. La facture porte 4000, pas de blague.
Le brocanteur ne perdit point contenance.
Eh bien, elle vous libère. Après.
Barberou se leva et, à sa figure blême d'abord, puis violette, Bouvard et Pécuchet croyaient qu'il allait étrangler Gutmann. Il se rassit, croisa les bras.
« Vous êtes une rude canaille, convenez-en. »«
Pas d'injure, monsieur Barberou.
Il y a des témoins, prenez garde. »«
Je vous flanquerai un procès. » »« Ta, ta, ta. » Puis, ayant bouclé son portefeuille, Gutmann souleva le bord de son chapeau. « À l'avantage. » Et il sortit. Barberou exposa les faits pour une créance de 1000 francs doublée par suite de manœuvres usuraires. Il avait livré à Gutmann 3000 francs de vin, ce qui payerait sa dette avec 1000 francs de bénéfice. Mais au contraire, il en devait 3000. Ses patrons le renverraient, on le poursuivrait. Crapule, brigand, sale juif, et ça dîne dans les presbytères. D'ailleurs, tout ce qui touche à la calotte, il déblatéra contre les prêtres et tapait sur la table avec tant de violence que la statuette faillit tomber.
« Doucement, » dit Bouvard.
« Tiens, qu'est-ce que ça ?» Et Barberou, ayant défait l'enveloppe de la petite Vierge, « Un bibelot du pèlerinage, à vous ?» Bouvard, au lieu de répondre, sourit d'une manière ambiguë.
« C'est à moi, » dit Pécuchet.
« Vous m'affligez, » reprit Barberou, « mais je vous éduquerai là-dessus, n'ayez pas peur. » Et comme on doit être philosophe et que la tristesse ne sert à rien, il leur offrit à déjeuner. Tous les trois s'attablèrent. Barberou fut aimable, rappela le vieux temps, prit la taille de la bonne, voulut toiser le ventre de Bouvard. Il irait chez eux bientôt et leur apporterait un livre farce. L'idée de sa visite les réjouissait médiocrement. Ils en causèrent dans la voiture pendant une heure au trot du cheval. Ensuite, Pécuchet ferma les paupières. Bouvard se taisait aussi, intérieurement. Il penchait vers la religion. M. Marescot s'était présenté la veille pour leur faire une communication importante. Marcel n'en savait pas davantage. Le notaire ne put les recevoir que 3 jours après et de suite exposa la chose. Pour une rente de 7 500 francs, Mme Bordin proposait à M. Bouvard de lui acheter leur ferme. Elle l'a reluqué depuis sa jeunesse, en connaissait les tenants et aboutissants, défauts et avantages, et ce désir était comme un cancer qui la minait. Car la bonne dame en vraie normande chérissait par-dessus tout le bien, moins pour la sécurité du capital que pour le bonheur de fouler le sol vous appartenant. Dans l'espoir de celui-là, elle avait pratiqué des enquêtes, une surveillance journalière, de longues économies, et elle attendait avec impatience la réponse de Bouvard. Il fut embarrassé, ne voulant pas que Pécuchet un jour se trouvât sans fortune. Mais il fallait saisir l'occasion qui était l'effet du pèlerinage. La Providence, pour la seconde fois, se manifestait en leur faveur. Ils offrirent les conditions suivantes. La rente, non pas de 7 500 francs, mais de 6 000, serait dévolue au dernier survivant. Maresco fit valoir que l'un était faible de santé, le tempérament de l'autre le disposait à l'apoplexie, et Mme Bordin signa le contrat, emporté par la passion. Bouvard en resta mélancolique. Quelqu'un désirait sa mort, et cette réflexion lui inspira des pensées graves, des idées de Dieu et d'éternité. 3 jours après, M. Geoffroy les invita au repas de cérémonie qu'il donnait une fois par an à des collègues. Le dîner commença vers 2 heures de l'après-midi, pour finir à 11 heures du soir. On y but du poiré, on y débita des calembours. L'abbé Pruneau composa séance tenante un acrostiche, M. Bougon fit des tours de cartes, et Serpé, jeune vicaire, chanta une petite romance qui frisait la galanterie. Un pareil milieu divertit Bouvard. Il fut moins sombre le lendemain. Le curé vint le voir fréquemment, il présentait la religion sous des couleurs gracieuses. Que risque-t-on du reste? Et Bouvard consentit bientôt à s'approcher de la sainte table.
Pécuchet, en même temps que lui, participerait au sacrement. Le grand jour arriva. L'église, à cause des premières communions, était pleine de monde. Les bourgeois et les bourgeoises encombraient leurs bancs, et le menu peuple se tenait debout par derrière ou dans le jubé au-dessus de la porte. Ce qui allait se passer tout à l'heure était inexplicable, songeait Bouvard. Mais la raison ne suffit pas à comprendre certaines choses. De très grands hommes ont admis celle-là. Autant faire comme eux. Et dans une sorte d'engourdissement, ils contemplaient l'autel, l'encensoir, les flambeaux. La tête un peu vide car ils n'avaient rien mangé et éprouvaient une singulière faiblesse. Pécuchet, en méditant la passion de Jésus-Christ, excitait à des élans d'amour. Il aurait voulu lui offrir son âme, celle des autres, et les ravissements, les transports, les illuminations des saints, tous les êtres, l'univers entier. Bien qu'il priât avec ferveur, les différentes parties de la messe lui semblèrent un peu longues. Enfin, les petits garçons s'agenouillèrent sur la première marche de l'autel, formant avec leurs habits une bande noire que surmontaient inégalement des chevelures blondes ou brunes. Les petites filles les remplacèrent, ayant sous leur couronne des voiles qui tombaient. De loin, on aurait dit un alignement de nuées blanches au fond du cœur. Puis ce fut le tour des grandes personnes. La première du côté de l'évangile était Pécuchet, mais trop ému sans doute, il oscillait la tête de droite et de gauche. Le curé eut peine à lui mettre l'hostie dans la bouche, et il la reçut en tournant les prunelles. Bouvard, au contraire, ouvrit si largement les mâchoires que sa langue lui pendait sur la lèvre comme un drapeau. En se relevant, il coudoya Madame Bordin. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle souriait. Sans savoir pourquoi, il rougit. Après Madame Bordin, communièrent ensemble Mademoiselle de Faverges, la comtesse, leur dame de compagnie, et un monsieur que l'on ne connaissait pas à Chavignoles. Les deux derniers furent Plaquevent et Petit, l'instituteur, quand tout à coup on vit paraître Gorju. Il n'avait plus de barbiche et il regagna sa place, les bras en croix sur la poitrine, d'une manière fort édifiante. Le curé harangua les petits garçons qu'ils aient soin plus tard de ne point faire comme Judas qui trahit son Dieu et de conserver toujours leur robe d'innocence. Pécuchet regretta la sienne. Mais on remuait des chaises, les mères avaient hâte d'embrasser leurs enfants. Les paroissiens, à la sortie, échangèrent des félicitations. Quelques-uns pleuraient. Madame de Faverges, en attendant sa voiture, se tourna vers Bouvard et Pécuchet et présenta son futur gendre, monsieur le baron de Mahureau, ingénieur. Le comte se plaignait de ne pas les voir. Il serait revenu la semaine prochaine. Notez-le, je vous prie. La calèche étant arrivée, les dames du château partirent et la foule se dispersa. Ils trouvèrent dans leur cour un paquet au milieu de l'herbe. Le facteur, comme la maison était close, l'avait jeté par-dessus le mur. C'était l'ouvrage que Barberoux avait promis, examen du christianisme, par Louis Hervieux, ancien élève de l'école normale. Pécuchet le repoussa. Bouvard ne désirait pas le connaître. On lui avait répété que le sacrement le transformerait. Durant plusieurs jours, il guetta des floraisons dans sa conscience. Il était toujours le même, et un étonnement douloureux le saisit. Comment la chair de Dieu se mêle à notre chair, et elle n'y cause rien? La pensée qui gouverne les mondes n'éclaire pas notre esprit? Le suprême pouvoir nous abandonne à l'impuissance? Monsieur Geoffroy, en le rassurant, lui ordonna le catéchisme de l'abbé Gaume. Au contraire, la dévotion de Pécuchet s'était développée. Il aurait voulu communier sous les deux espèces, chanter des psaumes en se promenant dans le corridor, arrêter les chavignolais pour discuter et les convertir. Vos corbeilles lui ritonnaient. Girbal haussa les épaules et le capitaine l'appela Tartuffe. On trouvait maintenant qu'ils allaient trop loin. Une excellente habitude, c'est d'envisager les choses comme autant de symboles. Si le tonnerre gronde, figurez-vous le jugement dernier. Devant un ciel sans nuages, pensez au séjour des bienheureux. Dites-vous dans vos promenades que chaque pas vous rapproche de la mort. Pécuchet observa cette méthode. Quand il prenait ses habits, il songeait à l'enveloppe charnelle dont la seconde personne de la Trinité s'est revêtue. Le tic-tac de l'horloge lui rappelait les battements de son cœur. Une piqûre d'épingle, les clous de la croix. Mais il eut beau se tenir à genoux pendant des heures et multiplier les jeûnes, et se pressurer l'imagination, le détachement de soi-même ne se faisait pas. Impossible d'atteindre à la contemplation parfaite. Il recourut à des auteurs mystiques, Sainte Thérèse, Jean de la Croix, Louis de Grenade, Saint Poli, et de plus moderne, Monseigneur Chaillot. Au lieu des sublimités qu'il attendait, il ne rencontra que des platitudes, un style très lâche, de froides images et force comparaisons tirées de la boutique des lapidaires. Il apprit cependant qu'il y a une purgation active et une purgation passive, une vision interne et une vision externe, 4 espèces d'oraison, 9 excellences dans l'amour, 6 degrés dans l'humilité, et que la blessure de l'âme ne diffère pas beaucoup du vol spirituel. Des points l'embarrassaient. Puisque la chair est maudite, comment se fait-il que l'on doive remercier Dieu pour le bienfait de l'existence? Quelle mesure garder entre l'atteinte indispensable au salut et l'espérance qui ne l'est pas moins? Où est le signe de la grâce? Etc. Les réponses de M. Geoffroy étaient simples. Ne vous tourmentez pas. À vouloir tout approfondir, on court sur une pente dangereuse. Le catéchisme de persévérance par Gaume avait tellement dégoûté Bouvard qu'il prit le volume de Louis Hervieux. C'était un sommaire de l'exégèse moderne défendu par le gouvernement. Barberoux, comme républicain, l'avait acheté. Il éveilla des doutes dans l'esprit de Bouvard, et d'abord sur le péché originel. Si Dieu a créé l'homme pécable, il ne devait pas le punir, et le mal est antérieur à la chute puisqu'il y avait déjà des volcans, des bêtes féroces. Enfin, ce dogme bouleverse mes notions de justice. « Que voulez-vous ? Disait le curé, c'est une de ces vérités dont tout le monde est d'accord, sans qu'on puisse en fournir de preuves. Et nous-mêmes, nous faisons rejaillir sur les enfants les crimes de leurs pères. Ainsi, les mœurs et les lois justifient ce décret de la Providence que l'on retrouve dans la nature. » Bouvard hocha la tête. Il doutait aussi de l'enfer. Car tout châtiment doit viser à l'amélioration du coupable, ce qui devient impossible avec une peine éternelle. Et combien l'endure, songez donc, tous les anciens, les juifs, les musulmans, les idolâtres, les hérétiques, et les enfants morts sans baptême, ces enfants créés par Dieu, et dans quel but, pour les punir d'une faute qu'ils n'ont pas commise. Telle est l'opinion de saint Augustin, ajouta le curé, et saint Fulgence enveloppe dans la damnation jusqu'au fœtus. L'Église, il est vrai, n'a rien décidé à cet égard. Une remarque pourtant. Ce n'est pas Dieu, mais le pécheur qui se damne lui-même. Et l'offense étant infinie, puisque Dieu est infini, la punition doit être infinie. Est-ce tout, monsieur ? Expliquez-moi la Trinité, dit Bouvard. Avec plaisir. Prenons une comparaison. Les trois côtés du triangle, ou plutôt notre âme, qui contient être, connaître et vouloir. Ce qu'on appelle faculté chez l'homme est personne en Dieu. Voilà le mystère. Mais les trois côtés du triangle ne sont pas chacun le triangle. Ces trois facultés de l'âme ne font pas trois âmes, et vos personnes de la Trinité sont trois dieux. Blasphème ! Alors il n'y a qu'une personne, un dieu, une substance affectée de trois manières. Adorons sans comprendre, dit le curé. Soit, dit Bouvard. Il avait peur de passer pour un impie, d'être mal vu au château. Maintenant, ils y venaient trois fois la semaine, vers 5 heures en hiver, et la tasse de thé les réchauffait. Monsieur le comte, par ses allures, rappelait le chic de l'ancienne cour. La comtesse, placide et grasse, montrait sur toute chose un grand discernement. Mademoiselle Yolande, leur fille, était le type de la jeune personne, l'ange d'équipe sec. Et Madame de Noir, leur dame de compagnie, ressemblait à Pécuchet, ayant son nez pointu. La première fois qu'ils entrèrent dans le salon, elle défendait quelqu'un. Je vous assure qu'il est changé, son cadeau le prouve. Ce quelqu'un était gorgé. Il venait d'offrir aux futurs époux un prie-dieu gothique. On l'apporta, les armes des deux maisons s'y étalaient en relief de couleur. Monsieur de Mailleroux en parut content, et Madame de Noailles lui dit « Vous vous souviendrez de mon protégé ?» Ensuite, elle amena deux enfants, un gamin d'une douzaine d'années et sa sœur, qui en avait peut-être 10. Par les trous de leur guenille, on voyait leurs membres rouges de froid. L'un était chaussé de vieilles pantoufles, l'autre n'avait plus qu'un sabot. Leur fond disparaissait sous leur chevelure, et ils regardaient autour d'eux avec des prunelles ardentes, comme de jeunes loups effarés. Madame de Noailles conta qu'elle les avait rencontrés le matin sur la grande route. Plaquevent ne pouvait fournir aucun détail. On leur demanda leur nom, Victor, Victorine. Où était leur père? En prison. Et avant, que faisaient-ils? Rien. Leur pays? Saint-Pierre. Mais quel Saint-Pierre? Les deux petits, pour toute réponse, disaient en reniflant « C'est pas, c'est pas. » Leur mère était morte et ils mendiaient. Madame de Noailles exposa combien il serait dangereux de les abandonner. Elle attendrit la comtesse, piqua d'honneur le comte, fut soutenue par mademoiselle, s'obstina, réussit. La femme du garde-chasse en prendrait soin, on leur trouverait de l'ouvrage plus tard, et comme ils ne savaient ni lire ni écrire, Madame de Noailles leur donnerait elle-même des leçons afin de les préparer au catéchisme. Quand M. Geoffroy venait au château, on allait quérir les deux mioches, il les interrogeait, puis faisait une conférence où il mettait de la prétention à cause de l'auditoire. Une fois qu'il avait discouru sur les patriarches, Bouvard, en s'en retournant avec lui et Pécuchet, les dénigra fortement. Jacob s'est distingué par des filouteries, David par les meurtres, Salomon par ses débauches. L'abbé lui répondit qu'il fallait voir au-delà. Le sacrifice d'Abraham est la figure de la passion. Jacob, une autre figure du Messie, comme Joseph, comme le serpent d'airain, comme Moïse. « Croyez-vous, dit Bouvard, qu'il ait composé le Pentateuque ?»« Oui, sans doute. » »« Cependant, on y raconte sa mort. Même observation pour Josué. Et quant au juge, l'auteur nous prévient qu'à l'époque dont il fait l'histoire, Israël n'avait pas encore de roi. L'ouvrage fut donc écrit sous les rois. Les prophètes aussi m'étonnent. Ils vaniaient les prophètes maintenant. Pas du tout, mais leur esprit échauffé percevait Jéhovah sous des formes diverses, celles d'un feu, d'une broussaille, d'un vieillard, d'une colombe, et ils n'étaient pas certains de la révélation puisqu'ils demandent toujours un signe. Ah, vous avez découvert ces belles choses. Dans Spinoza, à ce mot, le curé bondit. L'avez-vous lu? Dieu m'en garde. Pourtant, monsieur la science, monsieur, on n'est pas savant si l'on est chrétien. La science lui inspirait des sarcasmes. Fera-t-elle pousser un épi de grain, votre science? Que savons-nous? Disait-il. Mais ils savaient que le monde a été créé pour nous, ils savaient que les archanges sont au-dessus des anges, ils savaient que le corps humain ressuscitera tel qu'il était vers la trentaine. Son aplomb sacerdotal agaçait Bouvard, qui par méfiance de Louis Hervieux écrivit à Varlot. Et Pécuchet, mieux informé, demanda à M. Geoffroy des explications sur l'écriture. Les 6 jours de la Genèse veulent dire 6 grandes époques. Le rapt des vases précieux, fait par les Juifs aux Égyptiens, doit s'entendre des richesses intellectuelles, les arts dont ils avaient dérobé le secret. Isaïe ne se dépouilla pas complètement, nudus en latin signifiant « nu jusqu'aux hanches ». Ainsi Virgile conseille de se mettre nu pour labourer, et cet écrivain n'eut pas donné un précepte contraire à la pudeur. Ézéchiel dévorant un livre n'a rien d'extraordinaire. Ne dit-on pas dévorer une brochure, un journal? Mais si l'on voit partout des métaphores, que deviendront les faits? L'abbé soutenait cependant qu'ils étaient réels. Cette manière de les entendre parut déloyale à Pécuchet. Il poussa plus loin ses recherches et apporta une note sur les contradictions de la Bible. L'Exode nous apprend que pendant 40 ans on fit des sacrifices dans le désert. On n'en fit aucun suivant Amos et Jérémie. Les paralipomènes et le livre de Dras ne sont point d'accord sur le dénombrement du peuple. Dans le Deutéronome, Moïse voit le Seigneur face à face. D'après l'Exode, jamais il ne put le voir. Où est alors l'inspiration ? Motif de plus pour l'admettre, répliquait en souriant M. Geoffroy. Les imposteurs ont besoin de connivence, les sincères n'y prennent garde. Dans l'embarras, recourons à l'Église. Elle est toujours infaillible. De qui relève l'infaillibilité ? Les conciles de Bâle et de Constance l'attribuent aux conciles, mais souvent les conciles diffèrent, témoins ce qui se passa pour Athanase et pour Arius. Ceux de Florence et de Latran la décernent au pape, mais Adrien VI déclare que le pape, comme un autre, peut se tromper. Chicane, tout cela ne fait rien à la permanence du dogme. L'ouvrage de Louis Hervieux en signale les variations. Le baptême autrefois était réservé pour les adultes. L'extrême-onction ne fut un sacrement qu'au IXe siècle, la présence réelle a été décrétée au VIIIe, le purgatoire reconnu au XVe, l'Immaculée Conception est d'hier. Et Pécuchet en arriva à ne plus savoir que penser de Jésus. Trois évangiles en font un homme, dans un passage de saint Jean il paraît s'égaler à Dieu, dans un autre du même se reconnaître son inférieur. L'abbé ripostait par la lettre du roi Abgar, les actes de Pilate et le témoignage des Sibylles, dont le fond est véritable. Il retrouvait la Vierge dans les Gaules, l'annonce d'un rédempteur en Chine, la Trinité partout, la croix sur le bonnet du grand lama, en Égypte au point des dieux, et même il fit voir une gravure représentant un hylomètre, lequel était un phallus, suivant Pécuchet. Monsieur Geoffroy consultait secrètement son ami Bruno qui lui cherchait des preuves dans les auteurs. Une lutte d'érudition s'engagea et, fouetté par l'amour-propre, Pécuchet devint transcendant, mythologue. Il comparait la Vierge à Isis, l'Eucharistie au Homa des Perses, Bacchus à Moïse, l'Arche de Noé au vaisseau d'Oxyturos. Ces ressemblances pour lui démontraient l'identité des religions. Mais il ne peut y avoir plusieurs religions puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Et quand il était à bout d'argument, l'homme à la soutane s'écriait « C'est un mystère !» Que signifie ce mot ? Défaut de savoir, très bien. Mais s'il désigne une chose dont le seul énoncé implique contradiction, c'est une sottise. Et Pécuchet ne quittait plus M. Geoffroy. Il le surprenait dans son jardin, l'attendait au confessionnal, le relançait dans la sacristie. Le prêtre imaginait des ruses pour le fuir. Un jour qu'il était parti à Sasto administrer quelqu'un, Pécuchet se porta au-devant de lui sur la route, manière de rendre la conversation inévitable. C'était le soir vers la fin d'août. Le ciel écarlate se rembrunit et un gros nuage s'y forma, régulier dans le bas, avec des volutes au sommet. Pécuchet d'abord parla de choses indifférentes. Puis, ayant glissé le mot « martyr », combien pensez-vous qu'il y en ait eu ? Une vingtaine de millions, pour le moins. Leur nombre n'est pas si grand, dit Origène. Origène, vous savez, est suspect. Un large coup de vent passa, inclinant l'herbe des fossés et les deux rangs d'ormeaux jusqu'au bout de l'horizon. Pécuchet reprit. On classe dans les martyrs beaucoup d'évêques gaulois tués en résistant aux barbares, ce qui n'est plus la question. « Allez-vous défendre les empereurs ?» Suivant Pécuchet, on les avait calomniés. L'histoire de la Légion thébaine est une fable. Je conteste également Saint-Phorose et ses sept fils, Félicité et ses sept filles, et les sept vierges d'Ancyre condamnées au viol, bien que septuagénaires, et les 11 000 vierges de Saint-Ursule, dont une compagne s'appelait une des Sémilia, un nom qui pour un chiffre. Encore plus les 10 martyrs d'Alexandrie. Cependant, il se trouve dans des auteurs dignes de créance. Des gouttes d'eau tombèrent, le curé déploya son parapluie, et Pécuchet, quand il fut dessous, osa prétendre que les catholiques avaient fait plus de martyrs chez les juifs, les musulmans, les protestants et les libres penseurs que tous les romains autrefois. L'ecclésiastique se récria. Mais on compte 10 persécutions depuis Néron jusqu'à César Galba. Eh bien, et les massacres des Albigeois, et la Saint-Barthélemy, et la révocation de l'édit de Nantes. Et que c'est déplorable sans doute, mais vous n'allez pas comparer ces gens-là à Saint-Étienne, Saint-Laurent, Cyprien, Polycarpe, une foule de missionnaires. Pardon, je vous rappellerai Paty, Jérôme de Prague, Jean Hus, Bruno, Vanini, Anne Dubourg. La pluie augmentait et ses rayons dardaient si fort qu'ils rebondissaient du sol comme de petites fusées blanches. Pécuchet et M. Geoffroy marchaient avec lenteur, serrés l'un contre l'autre, et le curé disait « Après des supplices abominables, on les jetait dans des chaudières. L'Inquisition employait de même la torture et elle vous brûlait très bien. On exposait les dames illustres dans les lupanars. Croyez-vous que les dragons de Louis XIV fussent des sangs ? Et notez que les chrétiens n'avaient rien fait contre l'État. Les huguenots pas davantage. » Le vent chassé balayait la pluie dans l'air, elle claquait sur les feuilles ruisselées au bord du chemin, et le ciel couleur de boue se confondait avec les champs dénudés, la moisson étant finie. Pas un toit, au loin seulement la cabane d'un berger. Le maigre paletot de Pécuchet n'avait plus un fil de sec. L'eau coulait le long de son échine, entrait dans ses bottes, dans ses oreilles, dans ses yeux, malgré la visière de la casquette amorose. Le curé, en relevant d'un bras la queue de sa soutane, se découvrait les jambes, et les pointes de son tricorne crachaient l'eau sur ses épaules comme des gargouilles de cathédrale. Il fallut s'arrêter, et tournant le dos à la tempête, ils restèrent face à face, ventre contre ventre, en tenant à quatre mains le parapluie qui oscillait. M. Geoffroy n'avait pas interrompu la défense des catholiques. « Ont-ils crucifié vos protestants comme le fut saint Siméon, ou fait dévorer un homme par deux tigres comme il advint à saint Ignace ? Mais comptez-vous pour quelque chose tant de femmes séparées de leurs maris, d'enfants arrachés à leur mère ? Et les exils des pauvres à travers la neige, au milieu des précipices, on les entassait dans les prisons, à peine morts, on les traînait sur la clé. » L'abbé ricana. « Vous me permettrez de n'en rien croire. Et nos martyrs à nous sont moins douteux. Sainte Blandine a été livrée nue dans un filet à une vache furieuse. Sainte Julie périt assommée de coups. Saint Arac, Saint Probus et Saint Andronique, on leur a brisé les dents avec un marteau, déchiré les côtes avec des peignes de fer, traversé les mains avec des clous rougis, enlevé la peau du crâne.
« Vous exagérez, dit Pécuchet, la mort des martyrs était dans ce temps-là une amplification de rhétorique. »« Comment de la rhétorique ? Mais oui, tandis que moi, monsieur, je vous raconte de l'histoire. Les catholiques en Irlande éventrèrent des femmes enceintes pour prendre leurs enfants. Jamais. Et les donner aux pourceaux. Allons donc. En Belgique, ils les enterraient toutes vives. Quelle plaisanterie ! On a leur nom. » Et quand même, objecta le prêtre, en secouant de colère son parapluie, on ne peut les appeler des martyrs, il n'y en a pas en dehors de l'Église. Un mot, si la valeur du martyr dépend de la doctrine, comment servirait-il à en démontrer l'excellence ?
La pluie se calmait jusqu'au village, ils ne parlèrent plus. Mais sur le seuil du presbytère, l'abbé dit, « Je vous plains, véritablement je vous plains. » Pécuchet conta de suite à Bouvard son altercation, elle lui avait causé une malveillance anti-religieuse, et une heure après, assis devant un feu de broussailles, il lisait le curé Mélier. Ses négations lourdes le choquèrent, puis, se reprochant d'avoir méconnu peut-être des héros, il feuilleta dans la biographie l'histoire des martyrs les plus illustres. Quelle clameur du peuple quand ils entraient dans l'arène! Et si les lions et les jaguars étaient trop doux, du geste et de la voix, ils les excitaient à s'avancer. On les voyait tout couverts de sang sourire, debout, le regard au ciel. Sainte Perpétue renoua ses cheveux pour ne point paraître affligé. Pécuchet se mit à réfléchir. La fenêtre était ouverte, la nuit tranquille, beaucoup d'étoiles brillaient. Il devait se passer dans leur âme des choses dont nous n'avons plus l'idée. Une joie, un spasme divin. Et Pécuchet, à force d'y rêver, dit qu'il comprenait cela, aurait fait comme eux. Toi, certainement, pas de blague, crois-tu oui ou non ? Je ne sais. Il alluma une chandelle, puis ses yeux tombant sur le crucifix dans l'alcôve. Combien de misérables ont recouru à celui-là ? Et après un silence, on l'a dénaturé, c'est la faute de Rome. La politique du Vatican. Mais Bouvard admirait l'Église pour sa magnificence et aurait souhaité, au Moyen-Âge, être un cardinal. J'aurais eu bonne mine sous la pourpre, conviens-en. La casquette de Pécuchet posée devant les charbons n'était pas sèche encore. Tout en l'étirant, il sentit quelque chose dans la doublure et une médaille de Saint-Joseph tomba. Ils furent troublés, le fait leur paraissant inexplicable. Madame de Noir voulut savoir de Pécuchet s'il n'avait pas éprouvé comme un changement, un bonheur, et se trahit par ses questions. Une fois, pendant qu'il jouait au billard, elle lui avait cousu la médaille dans sa casquette. Évidemment, elle l'aimait, ils auraient pu se marier. Elle était veuve et il ne soupçonna pas cet amour qui peut-être eût fait le bonheur de sa vie. Bien qu'il se montrât plus religieux que M. Bouvard, elle l'avait dédié à Saint-Joseph, dont le secours est excellent pour les conversions. Personne comme elle ne connaissait tous les chapelets et les indulgences qu'ils procurent, les faits des reliques, les privilèges des eaux saintes. Sa montre était retenue par une chaînette qui avait touché au lien de Saint-Pierre. Parmi ses breloques luisait une perle d'or, à l'imitation de celle qui contient, dans l'église d'Aloigne, une larme de Notre Seigneur. Un anneau à son petit doigt enfermait des cheveux du curé d'Ars. Et comme elle cueillait des simples pour les malades, sa chambre ressemblait à une sacristie et à une officine d'apothicaire. Son temps se passait à écrire des lettres, à visiter les pauvres, à dissoudre des concubinages, à répandre des photographies du Sacré-Cœur. Un monsieur devait lui envoyer de la pâte des martyrs, mélange de cire pascale et de poussière humaine prise aux catacombes, et qui s'emploie dans les cas désespérés, en mouches ou en pilules. Elle en promit à Pécuchet. Il parut choqué d'un tel matérialisme. Le soir, un valet du château lui apporta une hôtée d'opuscules, relatant des paroles pieuses du grand Napoléon, des bons mots de curé dans les auberges, des morts effrayantes advenues à des impies. Madame de Noir savait tout cela par cœur, avec une infinité de miracles. Elle en comptait de stupides, des miracles sans but, comme si Dieu les eût faits pour ébahir le monde. Sa grand-mère, à elle-même, avait serré dans une armoire des pruneaux couverts d'un linge, et quand on ouvrit l'armoire un an plus tard, on en vit 13 sur la nappe formant la croix. Expliquez-moi cela. C'était son mot après ces histoires qu'elle soutenait avec un entêtement de bourrique, bonne femme d'ailleurs, et d'humeur enjouée. Une fois pourtant, elle sortit de son caractère. Bouvard lui contestait le miracle de Bézilla. Un compotier où l'on avait caché des hosties pendant la Révolution se dora de lui-même tout seul. Peut-être y avait-il au fond un peu de couleur jaune provenant de l'humidité. Mais non, je vous répète que non, la dorure a pour cause le contact de l'Eucharistie. Et elle donna en preuve l'attestation des évêques. C'est, disent-ils, comme un bouclier, un palladium sur le diocèse de Perpignan. Demandez plutôt à M. Geoffroy. Bouvard n'y tint plus et, ayant repassé son Louis-Hervieux, emmena Pécuchet. L'ecclésiastique finissait de dîner. Reine offrit des sièges et, sur un geste, alla prendre deux petits verres qu'elle emplit de rosolio. Après quoi Bouvard exposa ce qu'il amenait. L'abbé ne répondit pas franchement. Tout est possible à Dieu et les miracles sont une preuve de la religion. Cependant, il y a des lois. Cela n'y fait rien. Il les dérange pour instruire, corriger. Que savez-vous s'il les dérange ? Répliqua Bouvard. Tant que la nature suit sa routine, on n'y pense pas. Mais dans un phénomène extraordinaire, nous voyons la main de Dieu. Elle peut y être, dit l'ecclésiastique. Et quand un événement se trouve certifié par des témoins, les témoins gobent tout, car il y a de faux miracles. Le prêtre devint rouge. Sans doute, quelquefois. Comment les distinguer des vrais? Et si les vrais donnés en preuve ont eux-mêmes besoin de preuves, pourquoi en faire? Rennes intervint et, prêchant comme son maître, dit qu'il fallait obéir. La vie est un passage, mais la mort est éternelle. Bref, ajouta Bouvard en lampant le rosolio, les miracles d'autrefois ne sont pas mieux démontrés que les miracles d'aujourd'hui. Des raisons analogues défendent ceux des chrétiens et des païens. Le curé jeta sa fourchette sur la table. Cela était faux encore un coup. Pas de miracle en dehors de l'église. Tiens, se dit Pécuchet, même argument que pour les martyrs. La doctrine s'appuie sur les faits et les faits sur la doctrine. M. Geoffroy, ayant bu un verre d'eau, reprit, tout en les niant, vous y croyez, le monde que convertissent 12 pécheurs, voilà, il me semble, un beau miracle. Pas du tout. Pécuchet en rendait compte d'une autre manière. Le monothéisme vient des Hébreux, la Trinité des Indiens. Le Logos est à Platon, la Vierge Mère à l'Asie. N'importe, M. Geoffroy, tenait au surnaturel, ne voulait que le christianisme pût avoir humainement la moindre raison d'être, bien qu'il en vît chez tous les peuples des prodromes ou des déformations. L'impiété railleuse du XVIIIe siècle, il l'eût tolérée, mais la critique moderne, avec sa politesse, l'exaspérait. J'aime mieux l'athée qui blasphème que le sceptique qui argote. Puis il les regarda d'un air de bravade comme pour les congédier. Pécuchet s'en retourna mélancolique. Il avait espéré l'accord de la foi et de la raison. Bouvard lui fit lire ce passage de Louis Hervieux. Pour connaître l'abîme qui les sépare, opposez leurs axiomes. La raison vous dit, le tout enferme la partie, et la foi vous répond par la substantation. Jésus, communiant avec ses apôtres, avait son corps dans sa main et sa tête dans sa bouche. La raison vous dit, on n'est pas responsable du crime des autres, et la foi vous répond par le péché originel. La raison vous dit, trois, c'est trois, et la foi déclare que trois, c'est un. Ils ne fréquentèrent plus l'abbé. C'était l'époque de la guerre d'Italie. Les honnêtes gens tremblaient pour le pape, ont tonné contre Emmanuel. Madame de Noailles allait jusqu'à lui souhaiter la mort. Bouvard et Pécuchet ne protestaient que timidement. Quand la porte du salon tournait devant eux et qu'ils se miraient en passant dans les hautes glaces, tandis que par les fenêtres on apercevait les allées où tranchait sur la verdure le gilet rouge d'un domestique, ils éprouvaient un plaisir, et le luxe du milieu les faisait indulgents aux paroles qui s'y débitaient. Le comte leur prêta tous les ouvrages de M. de Maistre. Il en développait les principes devant un cercle d'intimes, Hurel, le curé, le juge de paix, le notaire, et le baron, son futur gendre qui venait de temps à autre pour 24 heures au château. « Ce qu'il y a d'abominable, disait le comte, c'est l'esprit de 89. D'abord on conteste Dieu, ensuite on discute le gouvernement, puis arrive la liberté. Liberté d'injure, de révolte, de jouissance, ou plutôt de pillage. Si bien que la religion et le pouvoir doivent proscrire les indépendants, les hérétiques. On criera sans doute à la persécution, comme si les bourreaux persécutaient les criminels. Je me résume, point d'État sans Dieu. La loi ne pouvant être respectée que si elle vient d'en haut. Et actuellement, il ne s'agit pas des Italiens, mais de savoir qui l'emportera, de la Révolution ou du pape, de Satan ou de Jésus-Christ. » M. Geoffroy approuvait par des monosyllabes. Hurel avec un sourire, le juge de paix en dodelinant la tête. Bouvard et Pécuchet regardaient le plafond. Madame de Noailles, la comtesse et Yolande travaillaient pour les pauvres. Et M. de Mailleroux, près de sa fiancée, parcourait les feuilles. Puis il y avait des silences, où chacun semblait plongé dans la recherche d'un problème. Napoléon III n'était plus un sauveur, et même il donnait un exemple déplorable, en laissant aux Tuileries les maçons travailler le dimanche. « On ne devrait pas permettre » était la phrase ordinaire de M. le comte. Économie sociale, beaux-arts, littérature, histoire, doctrine scientifique, il décidait de tout en sa qualité de chrétien et de père de famille. Et plût à Dieu que le gouvernement, à cet égard, eût la même rigueur qu'il déployait dans sa maison. Le pouvoir seul est juge des dangers de la science. Répandue trop largement, elle inspire au peuple des ambitions funestes. Il était plus heureux, ce pauvre peuple, quand les seigneurs et les évêques tempéraient l'absolutisme du roi. Les industriels maintenant l'exploitent. Il va tomber en esclavage. Et tous regrettaient l'ancien régime. Hurel par bassesse, Coulon par ignorance, Maresco comme artiste. Bouvard, une fois chez lui, se retrempait avec la maîtrise d'Holbach, etc. Et Pécuchet s'éloigna d'une religion devenue un moyen de gouvernement. Monsieur de Maillerault avait communié pour séduire mieux ses dames, et s'il pratiquait, c'était à cause des domestiques. Mathématicien et dilettante, jouant des valses sur le piano et admirateur de Töpffer, il se distinguait par un scepticisme de bon goût. Ce qu'on rapporte des abus féodaux de l'Inquisition ou des Jésuites, préjugés. Et il vantait le progrès, bien qu'il méprisât tout ce qui n'était pas gentilhomme ou sorti de l'école polytechnique. Monsieur Geoffroy de même leur déplaisait. Il croyait aux sortilèges, faisait des plaisanteries sur les idoles, affirmait que tous les idiomes sont dérivés de l'hébreu. Sa rhétorique manquait d'imprévu. Invariablement, c'était le cerf aux abois, le miel et l'absinthe, l'or et le plomb, des parfums, des urnes, et l'âme chrétienne, comparée au soldat qui doit dire, en face du péché, « Tu ne passes pas !» Pour éviter ces conférences, ils arrivaient au château le plus tard possible. Un jour, pourtant, ils l'y trouvèrent. Depuis une heure, il attendait ses deux élèves. Tout à coup, Madame de Noir entra. La petite a disparu. J'amène Victor. Ah, le malheureux! Elle avait saisi dans sa poche un dé d'argent perdu depuis 3 jours, puis suffoqué par les sanglots. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Pendant que je le grondais, il m'a montré son derrière. Et avant que le comte et la comtesse aient rien dit, du reste, c'est de ma faute. Pardonnez-moi. Elle leur avait caché que les deux orphelins étaient les enfants de Touache maintenant au bagne. Que faire? Si le comte les renvoyait, ils étaient perdus et son acte de charité passerait pour un caprice. Monsieur Geoffroy ne fut pas surpris. L'homme étant corrompu naturellement, on doit le châtier pour l'améliorer. Bouvard protesta. La douceur valait mieux. Mais le comte encore une fois s'étendit sur le bras de fer, indispensable aux enfants comme pour les peuples. Ces deux-là étaient pleins de vices, la petite fille menteuse, le gamin brutal. Ce vol, après tout, on l'excuserait. L'insolence, jamais. L'éducation devant être l'école du respect. Donc Sorel, le garde-chasse, administrerait au jeune homme une bonne fessée immédiatement. Monsieur de Maillerault, qui avait à lui dire quelque chose, se chargea de la commission. Il prit un fusil dans l'antichambre et appela Victor resté au milieu de la cour, la tête basse. « Suis-moi, » dit le baron. Comme la route pour aller chez le garde détournait peu de Chavignolles, Monsieur Geoffroy, Bouvard et Cuchet l'accompagnèrent. À 100 pas du château, il les pria de ne plus parler tant qu'ils longeraient le bois. Le terrain dévalait jusqu'au bord de la rivière où se dressaient de grands quartiers de roches. Elles faisaient des plaques d'or sous le soleil couchant. En face, les verdures des collines se couvraient d'ombre. Un air vif soufflait. Des lapins sortirent de leur terrier et broutaient le gazon. Un coup de feu partit, un deuxième, un autre, et les lapins sautaient, déboulés. Victor se jetait dessus pour les saisir et haletait trempé de sueur. « Tu arranges bien tes nippes, » dit le baron. Sa blouse en loques avait du sang. La vue du sang répugnait à Bouvard. Il n'admettait pas qu'on en pût verser. Monsieur Geoffroy reprit. « Les circonstances, quelquefois, l'exigent. Si ce n'est pas le coupable qui donne le sien, il faut celui d'un autre. Vérité que nous enseigne la rédemption. » Suivant Bouvard, elle n'avait guère servi, presque tous les hommes étant damnés malgré le sacrifice de notre Seigneur. Mais quotidiennement, il le renouvelle dans l'Eucharistie. Et le miracle, dit Pécuchet, se fait avec des mots, quelle que soit l'indignité du prêtre. Là est le mystère, monsieur. Cependant, Victor clouait ses yeux sur le fusil, tâchait même d'y toucher. À bas les pattes! Et monsieur de Maillerault prit un sentier sous bois. L'ecclésiastique avait Pécuchet d'un côté, Bouvard de l'autre, et il lui dit. « Attention, vous savez, débéture puéris !» Bouvard l'assura qu'il s'humiliait devant le Créateur, mais était indigné qu'on en fît un homme. On redoute sa vengeance, on travaille pour sa gloire. Il a toutes les vertus, un bras, un œil, une politique, une habitation. Notre Père qui êtes aux cieux, qu'est-ce que cela veut dire ? Et Pécuchet ajouta, « Le monde s'est élargi, la terre n'en fait plus le centre. Elle roule dans la multitude infinie de ses pareils. Beaucoup la dépassent en grandeur, et ce rabotissement de notre globe prouve de Dieu un idéal plus sublime. Donc la religion devait changer. Le paradis est quelque chose d'enfantin, avec ses bienheureux toujours contemplant, toujours chantant, et qui regardent d'en haut les tortures des damnés. Quand on songe que le christianisme a pour base une pomme, le curé se fâcha. Nier la révélation, ce sera plus simple. Comment voulez-vous que Dieu ait parlé, dit Bouvard? Prouvez qu'il n'a pas parlé, disait Geoffroy. Encore une fois, qui vous l'affirme? L'Église. Beau témoignage. Cette discussion ennuyait M. de Mahurot et tout en marchant. Écoutez donc le curé, il en sait plus que vous. Bouvard et Pécuchet se firent des signes pour prendre un autre chemin. Puis à la croix verte, bien le bonsoir. Serviteur, dit le baron. Tout cela serait compté à Monsieur de Faverges, et peut-être qu'une rupture s'ensuivrait. Tant pis. Il se sentait méprisé par ces nobles. On ne les invitait jamais à dîner, et ils étaient là de Madame de Noailles avec ses continuelles remontrances. Il ne pouvait cependant garder le demestre, et une quinzaine après, ils retournèrent au château, croyant n'être pas reçus. Ils le furent. Toute la famille se trouvait dans le boudoir, Hurel y compris, et par extraordinaire fourreau. La correction n'avait point corrigé Victor, il refusait d'apprendre son catéchisme, et Victorine proférait des mots sales. Bref, le garçon irait au jeune détenu, la petite fille, dans un couvent. Fourreau s'était chargé des démarches et il s'en allait quand la comtesse le rappela. On attendait M. Geoffroy pour fixer ensemble la date du mariage, qui aurait lieu à la mairie bien avant de se faire à l'église, afin de montrer que l'on honnissait le mariage civil. Fourreau tâcha de le défendre. Le comte et Hurel l'attaquèrent. Quitter une fonction municipale près d'un sacerdoce, et le baron ne se fût pas cru marié s'il eût été seulement devant une écharpe tricolore. « Bravo !» dit M. Geoffroy qui entrait. Le mariage étant établi par Jésus, Pécuchet l'arrêta. Dans quel évangile? Aux temps apostoliques, on le considérait si peu que Tertullien le compare à l'adultère. Ah, par exemple. Eh oui, et ce n'est pas un sacrement. Il faut au sacrement un signe. Montrez-moi le signe dans le mariage. Le curé eut beau répondre qu'il figurait l'alliance de Dieu avec l'Église. « Vous ne comprenez plus le christianisme, et la loi, elle en garde l'empreinte, dit M. de Faverges. Sans lui, elle autoriserait la polygamie. » Une voix répliqua. « Où serait le mal ?» C'était Bouvard, à demi caché par un rideau. « On peut avoir plusieurs épouses, comme les patriarches, les mormons, les musulmans, et néanmoins être honnête homme. »« Jamais, s'écria le prêtre. L'honnêteté consiste à rendre ce qui est dû. » Nous devons hommage à Dieu. Or, qui n'est pas chrétien n'est pas honnête. Autant que d'autres, dit Bouvard. Le comte, croyant voir dans cette répartie une atteinte à la religion, l'exalta. Elle avait affranchi les esclaves. Bouvard fit des citations prouvant le contraire. Saint Paul le recommande d'obéir au maître comme à Jésus. Saint Ambroise nomme la servitude un don de Dieu. Le Lévitique, l'Exode et les conciles l'ont sanctionné. Bossuet la classe parmi le droit des gens et Monseigneur Bouvier l'approuve. Le comte objecta que le christianisme, pas moins, avait développé la civilisation. Et la paresse, en faisant de la pauvreté une vertu. Cependant, monsieur, la morale de l'évangile est pas si morale. Les ouvriers de la dernière heure sont autant payés que ceux de la première. On donne à celui qui possède et on retire à celui qui n'a pas. Quant au précepte de recevoir des soufflets sans les rendre et de se laisser voler, il encourage les audacieux, les lâches et les coquins. Le scandale redoubla quand Pécuchet eut déclaré qu'il aimait autant le bouddhisme. Le prêtre éclata de rire. Le bouddhisme! Madame de Noailles leva les bras. « Le bouddhisme ?»« Comment, le bouddhisme ?» répétait le comte. « Le connaissez-vous ?» dit Pécuchet à M. Geoffroy, qui s'embrouilla. « Eh bien, sachez-le, mieux que le christianisme et avant lui, il a reconnu le néant des choses terrestres. Ses pratiques sont austères, ses fidèles plus nombreux que tous les chrétiens, et pour l'incarnation, Vishnu n'en a pas une, mais neuf, ainsi jugé.
« Des mensonges de voyageurs, dit madame de Noailles, soutenu par les francs-maçons, ajouta le curé.
Et tous parlant à la fois, allez donc continuer, fort joli.
Moi, je le trouve drôle.
Pas possible. Si bien que Pécuchet, exaspéré, déclara qu'il se ferait bouddhiste.
Vous insultez des chrétiennes, dit le baron.
Madame de Noailles s'affaissa dans un fauteuil. La comtesse et Yolande se taisaient, le comte roulait des yeux, Hurel attendait des ordres, l'abbé, pour se contenir, lisait son bréviaire. Cette vue apaisa M. de Faverges et, considérant les deux bons hommes, avant de blâmer l'Évangile et quand on a des tâches dans sa vie, il est certaines réparations, des réparations, des tâches. Assez, messieurs, vous devez me comprendre. Puis s'adressant à Fourreau, Sorel est prévenu, allez-y. Et Bouvard et Pécuchet se retirèrent sans saluer. Au bout de l'avenue, ils exhalèrent tous les trois leur ressentiment. On me traite en domestique, grommelait Fourreau, et les autres l'approuvant malgré le souvenir des hémorroïdes, il avait pour eux comme de la sympathie. Des cantonniers travaillaient dans la campagne. L'homme qui les commandait se rapprocha, c'était Gorju. On se mit à causer. Il surveillait le caillotage de la route votée en 1848 et devait cette place à M. de Mailleroux, l'ingénieur. Celui qui doit épouser Mademoiselle de Faverges, vous sortez de là-bas sans doute.
Pour la dernière fois, dit brutalement Pécuchet.
Gorju prit un air naïf. Une brouille ? Tiens, tiens. Et s'ils avaient pu voir sa mine quand ils eurent tourné les talons, ils auraient compris qu'il en flairait la cause. Un peu plus loin, ils s'arrêtèrent devant un enclos de triage qui contenait des loges à chiens et une maisonnette en tuiles rouges. Victorine était sur le seuil, des aboiements retentirent, la femme du garde parut. Sachant pourquoi le maire venait, elle héla Victor. Tout d'avance était prêt et leur trousseau dans deux mouchoirs que fermaient des épingles. « Bon voyage, leur dit-elle, trop heureuse de n'avoir plus cette vermine. » Était-ce leur faute s'ils étaient nés d'un père forçat? Au contraire, ils semblaient très doux, ne s'inquiétaient même pas de l'endroit où on les menait. Bouvard et Pécuchet les regardaient marcher devant eux. Victorine chantonnait des paroles indistinctes, son foulard au bras, comme une modiste qui porte un carton. Elle se retournait quelquefois et Pécuchet, devant ses frisettes blondes et sa gentille tournure, regrettait de n'avoir pas une enfant pareille. Élevée en d'autres conditions, elle serait charmante plus tard. Quel bonheur que de la voir grandir, d'entendre tous les jours son ramage d'oiseaux, quand il le voudrait de l'embrasser. Et un attendrissement lui montant du cœur aux lèvres, humecta ses paupières, l'oppressait un peu. Victor, comme un soldat, s'était mis son bagage sur le dos. Il sifflait, jetait des pierres aux corneilles dans les sillons, allait sous les arbres pour se couper des badines. Fourreau le rappela, et Bouvard, en le retenant par la main, jouissait de sentir dans la sienne ses doigts d'enfant, robustes et vigoureux. Le pauvre petit diable ne demandait qu'à se développer librement, comme une fleur en plein air, et il pourrirait entre des murs, avec des leçons, des punitions, un tas de bêtises. Bouvard fut saisi par une révolte de la pitié, une indignation contre le sort, une de ces rages où l'on veut détruire le gouvernement. « Galope, dit-il, amuse-toi, jouis de ton reste !» Le gamin s'échappa. Sa sœur et lui coucheraient à l'auberge, et dès l'aube, le messager de Falaise prendrait Victor pour le descendre au pénitencier de Beaubourg. Une religieuse de l'orphelinat de Grand Camp emmènerait Victorine. Fourreau, ayant donné ces détails, se replongea dans ses pensées. Mais Bouvard voulut savoir combien pouvait coûter l'entretien des deux mioches. Bah, l'affaire peut-être de 300 francs. Le comte m'en a remis 25 pour les premiers débours. Quel pingre! Et gardant sur le cœur le mépris de son écharpe, Fourreau hâtait le pas silencieusement. Bouvard murmura, « Ils me font de la peine, je m'en chargerai bien. Moi aussi, dit Pécuchet. La même idée leur étant venue. Il existait sans doute des empêchements.
Aucun, répliqua Fourreau. D'ailleurs, il avait le droit, comme maire, de confier à qui bon lui semblait les enfants abandonnés.
Et après une longue hésitation,
« Eh bien oui, prenez-les, ça le fera pisquer. »
Bouvard et Pécuchet les emmenèrent.
En rentrant chez eux, ils trouvèrent au bas de l'escalier, sous la madone, Marcel à genoux et qui priait avec ferveur. La tête renversée, les yeux demi-clos et dilatant son bec de lièvre, il avait l'air d'un fakir en extase.
« Quel brute !» dit Bouvard.
« Pourquoi ?» Il assiste peut-être à des choses que tu lui jalouserais si tu pouvais les voir. N'y a-t-il pas deux mondes tout à fait distincts? L'objet d'un raisonnement a moins de valeur que la manière de raisonner. Qu'importe la croyance? Le principal est de croire.
Telles furent, à la remarque de Bouvard, les objections de Pécuchet.